Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos pour Radio Axe. Et aujourd'hui, cette émission est très spéciale parce que je l'enregistre ni au studio Radio Axe, ni chez moi, mais dans le parc du dispensaire. Et aujourd'hui, j'ai provoqué cette invitation au bonheur en invitant...
Emily Fay.
Emily. Donc, Emily, je la connais depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai d'abord rencontré dans le cadre du réseau des mamans. Et puis ensuite, voilà, on a gardé le contact et on se rencontre de temps en temps dans le parc, tout près de chez elle, où je peux voir ses enfants grandir. Et d'ailleurs, ses enfants, je les avais aussi reçus dans mes ateliers du bonheur. Eh bien, aujourd'hui, je vais donc poser quelques questions à Emily sur le sujet. Eh ben, sur quel sujet? Sur le bonheur, bien sûr. Alors, Emily, à quoi ressemble ton bonheur aujourd'hui?
À quoi ressemble mon bonheur aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est d'accepter là où je suis, dans les circonstances. Peut-être étrange, sans routine, sans rythme, c'est plutôt une acceptation personnelle de ma situation. Et de me rendre compte combien de choses j'ai et pas de me concentrer sur ce que je n'ai pas. Parce que quand je me concentre sur ce que je n'ai pas de jardin, je n'ai pas d'arbre, je n'ai pas de verdure autour de moi. Ou, c'est là où je me sens mal.
Ma reine.
Okay.
Alors, il y a deux petites filles qui viennent, qui sont en train d'offrir un bouquet de fleurs à Emily. On va reprendre l'entretien. La présence de la nature, tu m'as parlé des arbres, du jardin, c'est important pour toi? C'est un rapport direct avec le bonheur, ça?
Oui, je crois que parce que moi, j'ai vraiment grandi dans la nature, j'ai grandi dans la forêt, dans les champs. C'est dans la nature que je me ressource. Et je me suis rendu compte pendant le confinement que, du coup, je n'avais plus du temps seul pour moi. Je ne me ressourçais pas dans la nature non plus. On est dans une situation un peu particulière. On est en fin de construction de notre maison, donc du coup, il n'y avait que de la boue dans notre jardin, quelques bouts de béton. Et du coup, début du confinement, on a enlevé les bouts de béton, on a raplati la terre, on a semé l'herbe, on a vu pousser. Et vraiment, c'était au travers de la nature extérieure que du coup, j'ai pu me ressourcer quelque part. Quelque part, c'était aussi les seuls moments où j'étais à peu près seule pendant le confinement. Donc, moi, j'ai vraiment besoin de la nature. J'ai besoin de dehors pour me ressourcer.
Alors, tu parlais de ton enfance. Ouais. Et on entend en effet que ton enfance, elle n'était pas à Sartrouville.
Non,
c'est pas l'accent de Sartrouville, ça.
On entend
bien. Alors, dis-moi,
ça.
Cette enfance, c'était où exactement?
C'était au milieu de l'état d'Iowa, aux États-Unis. Donc, il n'y a pas grand-chose là-bas. Pas de grande ville. La plus grande ville du coin, c'est Des Moines.
L'Iowa, c'est un état du Middle West?
Oui, vraiment au milieu. Si tu vois entre la Californie et New York, c'est au milieu. Et si tu vois Canada et Mexique, c'est au milieu.
Donc, d'accord. Du coup, c'est comme ça que je le voyais. Enfin, nous qui avons une géographie des États-Unis un peu...
Les grandes plaines, les gens vraiment simples, les gens...
C'est un état très agricole?
Très, très agricole. Moi, j'ai grandi au milieu des champs. Mes parents n'étaient pas fermiers, mais ils étaient directeurs d'un centre de vacances pour les familles, pour les enfants en été. Donc, du coup, on habitait sur le terrain.
Non, tu as vécu ton enfance dans un centre de vacances. Ouais. Alors là, c'est quoi? C'est un rêve, non?
Ouais, c'était génial.
Avec de la forêt, des lacs, des rivières,
avec des lacs, des
cabanes.
Ah. Et on partait le matin et ma maman disait « Revenez quand vous avez faim !» Donc du coup, on n'allait pas à l'école, on faisait l'école à la maison. Mais c'était plutôt comme pas l'école. Donc on n'avait pas les cours vraiment. Et on apprenait des choses pratiques, on achetait des vaches, on achetait des chevaux. On travaillait. Moi, avant d'avoir 14 ans, il faut avoir 14 ans pour pouvoir recevoir un chèque. D'avoir un vrai boulot, mais avant ça, j'avais mon petit boulot, on me payait pour le faire, et j'étais hyper contente.
Alors comment après l'école à la maison, on reprend des études après?
On avait quand même la situation quand je suis arrivée au lycée, il y avait, ou peut-être même au collège déjà, il y avait une dame qui s'occupait de plein de familles un peu comme nous dans le coin. Et on avait chez elle une fois par semaine avec une vingtaine d'autres enfants à peu près de notre âge. Donc moi et ma grande sœur, on allait toujours le jeudi toute la journée. Et elle nous donnait des devoirs à faire pour la semaine. Et du coup, on avait des bons copains. Là-bas, on a nos permis de conduire à 16 ans. On peut avoir un permis spécial à 14 ans quand on va à l'école ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, on avait une grande liberté. On n'avait jamais un couvre-feu à la maison. On traînait avec nos amis. On passait vraiment les bons moments. À 16 ans, j'étais le manager d'un café dans le coin. C'était une autre vie, honnêtement. C'était une belle vie, une belle enfance. On n'a pas passé vraiment une adolescence difficile parce qu'on avait tous nos petits boulots, un peu comme une petite maison dans la prairie. C'était une belle vie, une belle enfance.
Si on revient sur le thème principal qui est le bonheur, c'est ton bonheur à cette époque-là, c'était cette liberté. Est-ce que tu avais conscience de ce bonheur à ce moment-là?
Je ne me rendais pas compte que j'avais pas une enfance comme les autres. J'avais des amis qui allaient à l'école qui disaient « Oh, t'as la meilleure vie de toute la terre !» Mais je me rends compte maintenant que j'ai des enfants qu'ils sont vraiment contraints avec des devoirs, avec leur agenda rempli du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, sans beaucoup de temps pour leur propre créativité, leur propre intérêt. Nous, si on était intéressés par quelque chose, on s'y fonçait. Ma sœur, elle était à fond quand elle était petite dans le point de croix. Ça ne m'intéressait absolument pas, mais moi, j'étais plutôt intéressée par l'élevage des vaches. Je dressais des chevaux. J'achetais des chevaux, je les revendais. Je n'en parlais même pas avec mon père. Oh, j'ai acheté un autre cheval aujourd'hui. Donc.
C'est une vie à l'opposé de celle que peut vivre un petit Sartrouvillois aujourd'hui.
Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de liberté. J'essaie de trouver de la liberté pour mes enfants dans les choses qu'on fait, mais c'est pas évident.
Et en même temps, je t'écoute et je te vois aussi. Et en même temps, je ne sens pas de nostalgie. C'est du passé, mais tu te complais pas dedans, en fait.
Quand je pense à mon enfance, il n'y a que des bons souvenirs qui me reviennent.
Ouais, ce sont des bons souvenirs.
Oui, mais je n'essaie pas de revivre là-dedans parce que je sais que ce n'est pas possible.
D'accord. Donc, dans la nostalgie, aussi une forme de tristesse de ce temps qui est passé. Ouais. Alors que toi, tu es plutôt, comme tu disais tout à l'heure, dans l'acceptation, ouais. En fait. Et l'acceptation, moi j'aime bien l'acceptation, c'est une thématique que je rapproche souvent justement un peu de l'approche un peu bouddhiste, de l'acceptation, ouais, c'est-à-dire être accepté, c'est pas se résigner, ouais. C'est de dire aujourd'hui je mets mon énergie là où elle m'est réellement utile,
ouais.
Et je ne me bats pas contre ce qui n'est pas possible, comme par exemple retourner dans le passé, ouais. ou offrir à mes enfants l'enfance que j'ai eue, mais non, c'est pas possible, c'est autre chose, tu vois.
Oui, je crois que Il est important de se rattacher à cette phrase que tu as dit, ce qui n'est pas possible. Donc, si j'essaie de reproduire pour mes enfants ce que j'ai vécu, alors qu'on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans le même milieu, il n'y a pas les mêmes possibilités ici. Donc, je ne peux pas m'enfoncer dans une tristesse que je ne peux pas reproduire ça pour eux.
Okay.
Mais d'essayer de ramener les petits morceaux de... Ouais.
Par contre, ça compte parce que ça t'a fabriqué, ça t'a conçu, ça t'aide encore aujourd'hui.
Ouais.
Toute cette enfance, ce rapport, je reviens souvent sur le rapport à la nature.
Ouais.
Je me souviens d'une chronique que j'avais écrite ici et qui m'avait vraiment inspiré pour dire combien la nature nous est utile pour nous sentir, pour nous sentir humains. C'est-à-dire vraiment pour nous sentir différents des arbres, des plantes, des fleurs et des oiseaux.
Ouais.
Mais pour nous sentir présents, pour nous sentir vraiment sur place. Ouais. On a besoin de cette nature, c'est elle qui nous rythme aussi.
Ouais.
Si on n'a pas le rythme des saisons, comment est-ce qu'on peut finalement se rendre compte de la qualité aussi du temps qui passe, et pas uniquement de la douleur du temps qui passe. Tu sais, justement, comme tu es américaine, tu peux aussi comprendre ça. Moi, j'ai un de mes amis français qui, lui, travaillait, qui était du côté d'Orléans, je pense. Et puis, il était parti ouvrir une agence en Californie.
Ouais.
Sur place, il rencontre une Californienne.
Ouais.
Et il rencontre cette Californienne et finalement il décide de revenir en France au bout de quelques années et en disant ce qui m'a manqué là-bas c'était le rythme des saisons. La caniphonie, c'est formidable. La météo est superbe. Les gens sont adorables. Le rythme est cool. C'est très agréable. C'est très vivant, etc. C'est très riche. L'océan, c'est fabuleux, quoi. Mais ce qui m'a manqué, c'est d'avoir un hiver, un printemps, d'avoir un vrai automne, etc. Et là-bas, il faut faire 150 km pour avoir une saison différente. Et donc j'ai compris aussi à quel point justement c'était important, et du coup et depuis chaque fois que j'entends des personnes qui râlent après, ouais, il fait froid en hiver, il fait chaud en été, je dis mais profitez-en, c'est normal, là, c'est, il n'y a plus de saison, mais si, il y a des saisons encore, heureusement, il y a encore bien des saisons.
Et encore moins ici en France que chez moi c'est remarquable, il y a de la neige. Des mètres de neige.
Il y a de la neige l'hiver, c'est
qui,
clair, ça tient.
Reste pendant des
ça
mois.
Tient, ah d'accord, oui.
Et puis en printemps, il y a juste le bonheur qui arrive en printemps parce que, on a vécu un hiver rude.
Oui, il était temps que le printemps arrive.
Ouais, voilà. Et puis en été, il fait une chaleur à crever avec tout le. Je ne sais pas si c'est l'humidité du maïs qui pousse, mais il y a quelque chose, c'est juste. Fait lourd et chaud en été avec les moustiques partout et du coup arrivé automne, on est tellement content pour un peu de fraîcheur.
Ouais, d'accord.
Et puis c'est beau, les arbres sont magnifiques, et puis l'hiver arrive, il y a quelque chose de magie d'aller faire des bonhommes de neige, et puis on n'en peut plus vers février, et puis c'est vraiment marqué, chaque saison est vraiment marquée de quelque chose d'attendu, quelque chose de beau.
Ben voilà la surprise, tu vois, je savais pas comment cette invitation au bonheur allait tourner. On a beaucoup parlé de la nature et on a parlé aussi bien sûr du confinement et dans ce confinement qui est aussi très chargé de d'informations lourdes, tristes, anxiogènes, etc. Il y a aussi des moments de bonheur qui ont été apportés par ce confinement. Est-ce que tu as trouvé toi des moments de bonheur justement?
Au début, honnêtement, le premier mois, mon mari, il était trop content d'être à la maison parce qu'il faisait du télétravail, et on avait l'impression que tout d'un coup, tout s'est arrêté, et j'avais vraiment besoin que les choses s'arrêtent, les activités à droite, à gauche, l'école, et du coup, de se retrouver enfin, on fait un peu on vit un peu l'enfance que moi j'ai vécue, sans la nature, sans le côté aller dans le jardin autant que vous voulez, mais un aspect de on va apprendre autrement.
Et enfin, le temps nous appartient aussi.
Oui, et puis on faisait la cuisine, on faisait du pain, on profitait vraiment des moments en famille. Au bout d'un moment, quand même, ça devenait lourd pour moi parce que j'ai besoin de solitude pour me ressourcer. Donc, au bout d'un moment, ma vase était vide et je n'avais plus rien à donner.
Alors, cette émission peut paraître un peu décousue, mais c'est vrai qu'on est dans un parc avec des enfants qui viennent de temps en temps nous solliciter. Ils ont besoin de leur papa, de leur maman. On entend des cris, des goûters, des vélos, etc. Bon. Alors, Émilie, tu sais, traditionnellement, dans mon émission, je demande à mon invité de partager un titre, une musique qui lui fait particulièrement plaisir, quelque chose qui le rend heureux ou heureuse. Alors, on va d'abord découvrir le morceau que tu as choisi, et ensuite, tu nous en parleras. Donc, je laisse aux auditeurs l'écoute de ce titre.
Lampi sull'oceano, lampi sull'oceano, sguardi di luminosità. Forse qua in America i venti del Pacifico scoprono le sue immensità. Le mie mani stringono sogni lontanissimi e il mio pensiero corre da te. Temo, temo, sento profondi e oscuri abissi. E per l'amore che non sai che mi fai naufragare. E per l'amore che non ho, e per l'amore che vorrei, e per questo dolore. Oh, e questo amore che ho per te, che mi fa superare queste vere tempeste.
Alors, dis-nous ce qu'on vient d'écouter, Émilie.
Quand je l'écoute avec mes enfants le trouvent un peu triste parce que c'est opéra, j'essaie de éveiller les enfants aux différents styles musicaux, donc du coup, je n'ai pas qu'un seul style, mais moi, j'aime la musique quand c'est une belle musique, quand il y a quelque chose de recherché, pas seulement avec les paroles, mais... avec une énergie, avec des sons différents. Et moi, j'ai toujours tendance à aller vers l'opéra ou vers un style un peu un mélange d'opéra et même rock. Et je trouve que Josh Groban, il a un bel style qui prend un peu les plus belles chansons de tout le monde, parce que c'est dans les langues que je ne connais même pas, la plupart du temps même. Et il les adapte à ma génération. Il a vraiment éveillé ma génération à l'opéra. Il est un peu l'Andrea Bocelli des jeunes d'une trentaine. Je me rappelle que je faisais de la peinture chez ma grand-mère et on écoutait son album encore et encore. Donc du coup, moi, je l'appréciais vraiment. Ma grand-mère l'appréciait. Et c'est quelque chose qui dépasse une époque ou un style ou un genre musical.
Là, c'est un peu intemporel, quoi.
Et c'est juste de la belle musique. Et même si je ne comprends pas les paroles, si je comprends les paroles, j'aime bien écouter la musique qui a un sens. Si ça parle de... Si ça utilise des gros mots ou si ça n'a aucun sens. Parfois, les chansons d'amour, je me dis, vraiment, c'est ça qui pense que c'est l'amour? Ou les chansons country, que j'étais dans un bar et je te dis, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Et puis après, c'est l'amour de ma vie. Vraiment, c'est ça l'amour. Donc du coup, parfois quand j'écoute les chansons où je comprends les paroles, je me sens frustrée par les paroles. Mais quand je ne comprends pas les paroles, je peux vraiment profiter de la musique pure. Mm. Donc Josh Groban, il a beaucoup de choses en anglais, un peu en français et beaucoup dans d'autres langues, italien, voilà, espagnol.
Je vous conseille d'en écouter d'autres. Là, on a écouté Oceano de Josh Groban. Toi, tu proposes d'en écouter d'autres.
Oh, n'importe quoi de lui. Honnêtement, je mets mon playlist, Apple Playlist avec lui et il me met un peu de tout. Voilà. Noël, son truc de Noël est magnifique.
Et quand tu écoutes, par exemple, quand tu écoutes celle que tu as choisie aujourd'hui, Océano, qu'est-ce que ça provoque en fait en toi? Tu l'écoutes d'abord, tu l'écoutes dans quelles conditions, à quel moment? Est-ce que c'est plutôt l'écouter avec tes enfants ou est-ce que tu l'écoutes quand tu es seul? Est-ce que tu l'écoutes quand t'as le blues ou est-ce que tu écoutes au contraire quand t'as la pêche? Dis-moi un petit peu.
J'adore conduire avec tout le CD sur lequel est Océano. J'adore conduire avec ça parce qu'il y a une énergie dedans qui me fait un peu voler dans la voiture ou me fait m'échapper un peu. Et les enfants l'aiment bien aussi. Ils sont un peu perplexes. Mais je trouve que c'est important.
Est-ce que tout le monde chante dans la voiture comme dans les films américains où toutes les familles chantent ensemble ce qui passe à la radio?
Normalement, quand je chante, il y a mon fils qui m'a dit d'arrêter de chanter. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas. Mais oui, on chante beaucoup dans la voiture. Je me rappelle quand j'étais petite, on était dans la voiture beaucoup. Ce n'est pas comme ici où les choses sont à côté. Pour aller au supermarché, il fallait aller 25 minutes en voiture pour aller au supermarché.
Non.
Pour aller à l'église le dimanche matin, il fallait aller 25 minutes. Et tout était. Il n'y avait rien de plus proche. Donc, du coup, on passait beaucoup de temps dans la voiture. Et je me rappelle qu'on chantait, on chantait. On était quatre en grandissant, à peu près le même âge. Ma grande sœur avait 4 ans quand mon plus jeune frère est né. Donc, du coup, il y avait 4 enfants en 4 ans. Un peu comme mes enfants, 3 ans, enfants en 3 ans. Et j'ai arrêté à 3. Mais. J'ai des souvenirs de nous à chanter de toute notre force dans la voiture. Et puis, à un moment, ma mère, elle arrêtait la radio pour qu'on puisse chanter nous-mêmes. Et on faisait la deuxième voix, on faisait nos harmonies. Oui, je ne sais pas. J'ai grandi dans une famille assez musicale quand même. Donc, du coup, peut-être que ce n'est pas comme dans les films, mais
okay.
C'était ça ma vie.
Alors je vais bientôt arriver à la fin de cette émission où je termine en général par un conte aussi, donc je vais partager un conte qui pourra peut-être avoir un rapport avec nos échanges d'aujourd'hui. Je vais terminer quand même par une question, et cette question c'est peut-être à toi de me la poser. On va commencer comme ça. Est-ce que tu aurais une question à me poser en fait? Qu'est-ce que tu souhaiterais me poser comme question autour du bonheur?
Quelle est une clé de la bonheur à la bonheur quand il n'y a pas quelque chose à l'extérieur de soi-même qui provoque le bonheur? Tu vois, on a parlé beaucoup de la nature, on a parlé de quelque chose qui provoque le bonheur, mais quelle est la clé de la bonheur intérieur que tu as trouvée dans tous tes entretiens?
Alors, non seulement je peux te répondre, non seulement que j'ai trouvé dans tous mes entretiens, mais je l'ai trouvé aussi dans ma propre quête, dans la façon, ma façon d'avancer dans la vie, moi aussi, dans mon bonheur. Je reviendrai sur cette notion d'intérieur, en fait, parce que, en fait, en réalité, moi, la réflexion à laquelle j'arrive aujourd'hui, aussi, par mes lectures, par mes recherches, par mes échanges, c'est qu'en fait, le bonheur, il est principalement intérieur. Oui, on peut en effet agir sur l'extérieur et ça nous fait du bien d'être dans la nature, d'être dans un concert de son artiste préféré, d'être dans un bon restaurant et de partager un bon repas avec des gens qu'on aime, etc. Ce sont des bonheurs aussi, mais ce sont des bonheurs qui sont en fait très très fugaces. Ils sont liés au plaisir et bien sûr qu'il y a ce bonheur qui est lié au plaisir, c'est ce qu'on appelle le bonheur hédoniste ou hédonique. En fin de compte, en effet, c'est très agréable d'avoir du plaisir. Et on prend ce plaisir d'être dans la nature, on prend ce plaisir d'être avec des gens qu'on aime, etc. Il existe un bonheur en fait beaucoup plus puissant qu'on appelle le bonheur eudémonique, exactement, qui est un bonheur qui est dû à quelque chose que l'on construit avec le temps. C'est vrai que quand tu vois ta maison se construire, eh bien tu vas beaucoup plus la savourer que si tu achètes une maison déjà complètement construite. Tu l'auras vu se développer. Quand tu vois tes enfants grandir, quand tu apprends un instrument de musique et un jour tu arrives à jouer quelque chose sans faire de faute et qui a vraiment de l'âme, etc. Tu dis waouh, quand même c'est génial. Quand tu arrives à maîtriser une langue étrangère, toi ça doit te parler aussi. Un jour tu te rends compte en effet que tu arrives à penser, à rêver dans cette langue-là, tu te dis, mais oui, mais tout ça, c'est un effort qui... Enfin, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé d'un effort, et c'est aussi un bonheur, et ce bonheur, là, est beaucoup plus profond et beaucoup plus durable, en fait. Et donc le fait d'être heureux, c'est à la fois du plaisir et en même temps, c'est aussi un bonheur qu'on va chercher plutôt à l'intérieur, dans l'effort, dans la réflexion, dans la recherche, dans le temps, dans des leçons qu'on va tirer de moments difficiles, de souffrances, de périodes, j'appelle pour ça des périodes de turbulences qu'on va avoir dans notre vie, etc. Et ce bonheur-là, cette quête de bonheur intérieur, en fait, c'est celui qui est le plus important et celui avec lequel on va vivre aussi pendant le plus longtemps.
Ouais.
Donc je dirais que, pour moi, voilà, le bonheur, cette recherche du bonheur intérieur, c'est la recherche aussi, comme tu le disais finalement au début de cet entretien, de l'acceptation de soi, de ce que l'on a, de savourer ce qu'on possède, de prendre conscience de ce que l'on a, de ce que l'on est, d'où l'on est, ça veut dire d'où l'on vient et où on est là tout de suite, de cet instant présent qui est riche, qui est très puissant, et voilà, peut-être c'est ma façon de répondre un peu longue peut-être à ta question sur le bonheur. Je pense qu'il est, en effet, oui, il est à l'intérieur, et on retrouve ça aussi dans toutes les grandes réflexions sur le bonheur, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient spirituelles. En effet, c'est ce chemin intérieur, pour moi, elle est là, la vraie spiritualité, c'est le fait de trouver en soi des réponses et pas de les trouver dans un livre que tout le monde va partager. D'accord. Mais voilà, donc on a besoin de ces deux, bien sûr, de ces deux pans. Moi, voilà, je suis plutôt sur cette trouver sa voie et trouver son être. Et c'est aussi, ben voilà, une des métaphores de mon métier aussi, c'est d'accompagner des personnes du paraître à l'être, en fait. C'est-à-dire de laisser tomber peut-être justement tout ce que l'on fait pour le regard, le jugement des autres, et de faire des choses pour soi, qui nous nourrissent et qui nous nourrissent profondément.
Et de choisir de rechercher et pas juste se plaindre de notre situation.
Oui.
C'est un vrai choix.
C'est un vrai choix. Alors moi, pendant longtemps, j'ai cru que je répétais des phrases comme ça qui étaient jolies. Chaque choix est un renoncement. Ça me semblait vraiment très. Et puis je me suis rendu compte que non, finalement, aujourd'hui, ce que je pense profondément, c'est chaque choix est un choix.
Ouais.
J'assume mes choix. J'ai pas le sentiment de renoncer à quelque chose. Si je vais ici, je vais pas ailleurs. Ok, mais je vais pas compter tous les endroits où je ne vais pas.
Ouais.
Mais déjà, prenons conscience de l'endroit où je vais, où je suis. Ouais. Cette conversation avec toi, mais c'est du bonheur. Le retrouver mon enfant tout à l'heure qui fait du vélo, là, il est content, il évolue, il fait des choses nouvelles, ça c'est du bonheur aussi. Retrouver ma famille, le repas, etc. C'est prendre conscience de tout ça, et ça c'est dans ce moment, c'est dans cet instant présent. Eh bien, donc, je vais maintenant passer à l'heure du conte. Alors, puisque depuis le parc du dispensaire à Sartrouville, nous avons voyagé avec toi, Émilie, jusqu'aux États-Unis, eh bien, je propose un conte indien, des Indiens Wichita, qui s'appelle « Le loup et le raton laveur ». Je l'ai trouvé drôle, avec une belle petite sagesse à la fin. Un raton laveur se promenait. En chemin, il rencontre un loup qui lui dit « Je n'ai rien mangé depuis 3 soleils. N'aurais-tu pas quelques restes à partager avec ton ami ?»« Depuis quand es-tu l'ami des ratons laveurs ?»« Je l'ai toujours été, » répondit le loup. « Jamais je n'ai croqué un de tes congénères sans sa permission. » Le raton laveur retint un rire moqueur. « Dans ce cas, je vais t'aider. J'ai là quelque chose à manger, mais je ne sais pas si tu apprécieras cette nourriture. Je suis affamé et je dévorerai n'importe quoi. » Fort de cette confidence, le raton laveur enveloppa 3 petites boules noires dans une feuille d'érable et lui tendit le tout. Le loup avala le contenant et le contenu et déclara d'un air satisfait « Je n'ai jamais rien goûté d'aussi fameux. » Le raton laveur sourit et chanta « J'ai fait manger ma crotte au loup, j'ai fait manger ma crotte au loup. Que fredonnes-tu ainsi entre tes dents ?» demanda le loup. « Rien de très important, je disais qu'il fait beau aujourd'hui. » Et les deux animaux s'en allèrent de concert un peu plus loin. Ils arrivèrent près d'un grand arbre. Alors le raton chanta de nouveau, mais à haute et intelligible voix. « J'ai fait manger ma crotte au loup, le loup a mangé ma crotte. »« Quelle cochonnerie !» s'écria le loup en crachant par terre. « Puisqu'il en est ainsi, je vais te manger moi aussi. » Il voulut se jeter sur le raton laveur, mais celui-ci grimpa sur une haute branche de l'arbre. « Attrape-moi si tu peux !» Le loup dressa le museau. Qu'à cela ne tienne, j'attendrai que tu descendes. Il te faudra bien quitter cet arbre si tu ne veux pas mourir de faim. Le loup alluma un feu et se coucha à côté. Il pensa. Le raton va s'endormir, il tombera de sa branche. Le raton laveur songea de son côté. Le loup va s'endormir, alors je pourrai m'enfuir en toute sécurité. Au bout d'un moment, le loup parut s'assoupir. Le raton laveur lui jeta un morceau d'écorce dans sa direction. Le loup bondit et mordit dedans. Bah ! Ce n'est pas mon ami le raton. Retournons auprès du feu et attendons encore. Il reprit la pause. Le raton laveur attendit plus longtemps avant de jeter un nouveau bout d'écorce. Le loup sauta dessus une nouvelle fois et s'écria « Oh, ce n'est guère aimable de vouloir me tromper !» Le raton laveur répondit « Je n'avais pas l'intention de t'abuser, j'ai remué et un morceau de la branche est tombé. » Le loup bougonna et se recoucha près de son feu. Mais cette fois, la douce chaleur l'engourdit et il s'endormit pour de bon. Le raton jeta un troisième morceau de bois, le loup ne bougea pas. Alors, le raton entreprit de redescendre prudemment de son arbre. Arrivé en bas, il murmura « Dors bien, mon petit frère loup. Pendant ce temps, ton repas s'éloigne de toi. » Puis il recouvrit les yeux du loup avec sa crotte et partit vers la rivière se laver les pattes. Lorsque le loup se réveilla, il ne put ouvrir les paupières. Il se dit « Ce doit être encore un coup du raton laveur. Je vais aller à la rivière pour me nettoyer les yeux. » Après avoir parcouru quelques pas, il se cogna contre l'arbre. « Quelle espèce d'arbre es-tu » demanda-t-il. « Je suis un érable. La rivière est-elle loin d'ici ? Il te faut marcher droit devant toi. » Le loup continua sa course aveugle et heurta un autre arbre. « Quelle espèce d'arbre es-tu ? Je suis un hickory. La rivière est-elle loin d'ici ? Ben, je pousse sur la colline qui la domine, descends la pente et tu la trouveras. » Le loup descendit le terrain en pente. C'est alors qu'une troisième fois, il donna de la tête contre un arbre. « Quelle sorte d'arbre es-tu, mon cousin ?»« Je suis un sycomore. »« Suis-je sur le chemin de la rivière ?»« Elle est devant toi. » Le loup reprit sa marche incertaine. Le raton regardait la scène en se retenant de rire. Il coupa une branche de saule et la planta dans le sol sur le chemin du loup. Ce dernier se cogna dedans et interrogea « Quel genre d'arbre es-tu, mon oncle ?» Le raton laveur prit la voix du saule et répondit « Je suis un saule. Que t'arrive-t-il, mon pauvre loup ?» Le raton laveur m'a joué un tour, il m'a collé les yeux avec sa crotte. « Quel goujat !» s'indigna le raton. « Et que vas-tu faire maintenant que te voilà aveugle ?»« Me laver les yeux dans la rivière, ensuite je le retrouverai et je le dévorerai. » »« Il ne mérite pas un meilleur sort. Veux-tu m'aider ?» « Avec le plus grand plaisir, que puis-je faire pour toi ?»« Ben, dis-moi où est la rivière. »« Ce n'est guère difficile, tu es tout prêt, marche et tu y arriveras. » Mis en confiance par ce nouvel allié, le loup trottina vers la berge et entra dans le courant. « Dis-moi, mon ami Saul, jusqu'où ai-je de l'eau ?»«
Jusqu'aux genoux. »
Le loup avança un peu plus.
« Et maintenant, jusqu'où en ai-je ? » ?»«
Jusqu'au ventre. »
Quelques pas plus loin, il demanda encore.
« Dis-moi, mon frère, jusqu'où en ai-je cette fois ?»«
Jusqu'au cou, mais tu peux y aller sans crainte, je te préviendrai quand il faudra t'arrêter. »
Le loup fit encore trois pas.
« Et cette fois, jusqu'où ?»
Mais il n'acheva pas sa phrase. L'eau lui entra dans la gueule et le loup se noya. Le saule interrogea alors le raton laveur. « Mais pourquoi as-tu jeté ce vilain tour au loup ?» Pour lui apprendre à être moins hypocrite. On n'appelle pas son ami celui que l'on veut dévorer. Et voilà, c'était Jean-Marie Marcos avec mon invité Émilie Faye pour Invitation au bonheur. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur, mais auparavant, Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, we're far from the shallow now. Oh, 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 oh. I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now.
In the shallow. In the shallow, we're far from the shallow now.